Conversation avec un article, septième épisode. Ça n'en finit pas cette série, et comme je me régale à la faire, ça n'en finira pas. Le principe, je vous le rappelle comme toujours, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, une belle étude, vraiment une belle étude, sensible, généreuse, comme je les aime, publiée le 12 novembre 2019 dans la revue Visual Anthropology par Amber R. Reid. Bon, je ne vais pas faire semblant d'avoir un bon accent, qui est anthropologue, enseignante-chercheuse à l'Université américaine de l'Oregon et spécialiste de l'Afrique du Sud. L'article de cette collègue chercheuse porte sur les traces et la persistance très vive de la mémoire coloniale de l'apartheid dans la vie quotidienne des enfants des zones rurales du Cap-Oriental, qui est une province de 7 millions d'habitants au sud de l'Afrique du Sud. Une province relativement pauvre, avec de fortes inégalités entre les populations blanches et les populations noires. Le but de l'article est de montrer que l'abolition de l'apartheid en 1991, l'abolition de ce régime colonialiste et raciste, est loin, pardon, très loin dans les faits, d'être réellement consommée. Tout dans l'économie et les structures étatiques, les écoles, les hôpitaux, rappelle le privilège blanc sur lequel s'est édifié l'apartheid. Pour être clair, les populations blanches sont mieux soignées, mieux éduquées, davantage sécurisées, mieux nourries, économiquement privilégiées. L'autrice de l'article ne prétend pas ici révéler une vérité cachée en rappelant ces quelques éléments. Son originalité réside plutôt dans le matériau utilisé. Elle a demandé à une classe d'enfants de dessiner des cartes de leur quotidien spatial, de leur trajet pour aller à l'école par exemple, de leur maison, de leur communauté. Elle montre ainsi comment les enfants noirs, pauvres, conçoivent leur place, quelle est leur vision du monde, quels sont leurs espoirs et quel est le niveau d'incorporation de la colonisation et de l'apartheid. Si les enfants n'ont jamais vécu cette histoire, ils la vivent en fait au quotidien. Quelques mots d'abord sur la méthode avant de vous révéler les résultats. Ce travail relève de l'ethnographie dite multimodale, qui consiste à associer différentes ressources expressives, différents médias, théâtre, podcast, jeux, réalité dite augmentée, etc., etc. Alors dans quel but? Bah, pour faire parler des terrains complexes, sensibles. Avec des enfants, par exemple, le dessin est approprié, voire recommandé. C'est une alternative à la communication parlée, verbale, qui peut en freiner certains, certaines. Mais le dessin et la carte ne sont pas des outils neutres. Ils ne font pas que rendre visible le point de vue d'un enfant sur une situation donnée. Ce sont des supports dits performatifs, comme l'écrit l'autrice. La carte et le dessin créent un sentiment d'appartenance. Autrement dit, le dessin révèle la vision de l'enfant, mais il lui révèle également sa propre vision et celle de ses camarades. Il en prend conscience et un travail de déconstruction peut collectivement s'opérer. La démarche de l'autrice est donc politique. Ce n'est pas un hasard si la carte a été utilisée dans son travail ethnographique. C'est une manière de retourner le stigmate, puisque la cartographie a historique, historiquement été utilisée en Afrique du Sud et partout dans le monde d'ailleurs pour refondre les États. Dans les années 40, le Parti national, le Parti Afrikaner blanc, a remanié l'espace géographique de l'Afrique du Sud, a divisé artificiellement des groupes ethniques en s'appuyant notamment sur leurs dissensions, a créé, grâce aux architectes, un nouvel appareil d'État avec des églises, des hôpitaux, des écoles qui ont matérialisé, qui ont rendu durable, pérenne et presque naturelle la soi-disant suprématie blanche. Très clairement, les espaces non blancs ont été supprimés des cartes, les habitations, les références culturelles. On voit ici le rôle fondamental de l'aménagement des espaces dans la construction d'une politique raciale, raciste, qui écrase matériellement l'individu et qui survit dans le temps. J'y reviendrai. Les Noirs pauvres sont aujourd'hui reclus dans les terres les moins arables du pays, comme ils l'ont été dès l'instauration des lois sur les terres autochtones de 1913. Le Parti Afrikaner blanc a entériné ces décisions racistes et les a portées à un niveau inédit en les inscrivant dans la matière avec laquelle vivent aujourd'hui les enfants. Alors, toute cette histoire, on la retrouve dans leurs dessins et dans leurs cartes que l'auteur a croisées avec des sources documentaires, médiatiques et historiques pour montrer toutes les conséquences générationnelles de l'apartheid. Je le rappelle, elle a demandé à une classe de 46 enfants, 46 enfants, bon, je ne sais pas si elle a liaison ou pas, donc elle a demandé à une classe d'enfants de dessiner leur communauté sur du papier et leur quotidien spatial, géographique pendant une semaine. Elle leur a également demandé de placer ce qu'ils estimaient être des éléments clés, fondamentaux, sur ces cartes. Le choix de la zone, le Cap Oriental et des enfants issus du peuple Xhosa n'est pas anodin. C'est une région qui a joué un rôle important dans l'émancipation des Noirs d'Afrique du Sud, une région où Nelson Mandela s'est notamment impliqué avec le Congrès National Africain, un parti anti-apartheid qui a cependant échoué dans ses promesses d'égalité. Je reprends ici les éléments historiques de l'article, je serais incapable de faire une synthèse ou même une critique, donc je suis l'autrice. Hein. Aujourd'hui, la vie des enfants noirs du Cap-Oriental est difficile, précise-t-elle, les classes scolaires sont surchargées, les enfants travaillent à trois sur un même bureau, en dehors de l'école, ils vivent dans des environnements familiaux qui les sollicitent beaucoup du fait du manque structurel de moyens. Les enfants doivent par exemple garder leurs frères et sœurs plus jeunes, ils travaillent à la bougie dans des zones sans électricité, ils manquent parfois de nourriture et doivent faire plusieurs kilomètres par jour pour se rendre à l'école, dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans leurs dessins? D'abord, ce qu'on ne trouve pas, qui est paradoxalement un marqueur fort, l'absence indique toujours quelque chose. C'est un moment de langage. Eh bien, on ne trouve pas de nom de rue ou des échelles pour indiquer des distances, ce qui me rappelle mes cours de 6e. Ces éléments ne sont manifestement pas perçus comme pertinents par les enfants pour comprendre leur paysage local, ce qui est symptomatique de la formation des professeurs, essentiellement des historiens qui n'ont pas bénéficié de formations spécifiques en géographie. Dans un pays où la carte a joué un rôle fondamental dans l'établissement de la politique raciale et raciste, c'est plus que problématique. Ensuite, on ne trouve pas de bibliothèque. Les enfants n'ont tout simplement pas le temps de s'y rendre. Ce ne sont pas des lieux familiers. On ne trouve pas non plus d'installations municipales comme un hôtel de ville ou un commissariat. Pourquoi ? Parce que les enfants pauvres, noirs, comme leurs parents, ont appris à se méfier historiquement de toutes les structures étatiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans ces cartes? Il me semble qu'on peut distinguer plusieurs grandes catégories, ce que fait l'autrice, mais de manière un peu éclatée. Je rassemble donc des considérations historiques avec des traces matérielles. D'abord, on trouve dans les cartes des enfants tout ce qui va être lié à leur trajet. Il y a des paysages dessinés, des arbres, des rochers, des rivières. Pour venir à l'école, les enfants doivent parfois parcourir des kilomètres. Leurs cartes révèlent ce qu'ils croisent en chemin, à l'inverse des enfants blancs manifestement avantagés qui habitent près ou viennent en voiture. Deuxième catégorie, les infrastructures. La moitié des cartes, écrit l'autrice, inclut des robinets, des réservoirs d'eau, des barrages. Pourquoi ? Parce que ce sont les enfants qui lavent la vaisselle, qui vont chercher des seaux, qui nettoient aussi les vêtements de la famille, en partie. Dans une province où 75% de la population n'a pas accès à de l'eau potable, il est par ailleurs indispensable de connaître les bonnes sources, d'où leur présence sur les cartes des enfants. L'eau est ici un marqueur social hérité de l'apartheid, un marqueur qui permet de distinguer clairement les pauvres noirs des blancs avantagés, qui, eux, ont accès dans leur maison à des douches et des chasses d'eau. C'est pourquoi les enfants dessinent parfois ce type d'objet comme un but à atteindre. C'est un marqueur de réussite sociale. Troisième catégorie des éléments présents dans les dessins et les cartes des enfants, l'agriculture. On trouve du bétail, on trouve des fermes, on trouve des vaches dans la moitié des cartes, il me semble, ce qui est un indice de l'histoire pastorale du peuple auquel les enfants sont rattachés, le peuple Xhosa, j'espère que je le prononce bien, qui voit son mode de vie de plus en plus fragilisé avec des terres de moins en moins fertiles. La présence de l'agriculture témoigne de l'inquiétude des parents qui enjoignent leurs enfants à développer des compétences ou à ne pas oublier leur héritage ou leurs compétences pastorales et agricoles dans une région où le chômage ne cesse d'augmenter. Quatrième catégorie, les habitats. Les enfants distinguent les cabanes des abris des maisons. Dans une région où seulement 65% de la population vit Dans des maisons de briques et de béton relativement salubres, les dessins révèlent ici la situation sanitaire des enfants pauvres et noirs. Dans la catégorie des habitats, on trouve également des logements spécifiquement construits pour les noirs après l'apartheid, des logements de mauvaise qualité où ne vivent pas aujourd'hui les enfants. Mais ils les utilisent comme point de ralliement pour fixer des rendez-vous, par exemple. Preuve que ces logements font sens. Selon l'autrice de l'article, ces marques incarnent historiquement et cruellement l'incapacité du gouvernement post-apartheid à fournir des services adéquats aux populations pauvres et noires. Cinquième catégorie, les institutions. Les commissariats, les hôtels de ville sont absents. Par contre, on trouve beaucoup d'églises, mais également des cliniques et des hôpitaux. Dans le premier cas, dans le cas des églises, c'est une trace de l'héritage colonial. Les populations indigènes ont été converties au christianisme, qui leur promet encore richesse et salut, ce qui est une manière de dire contentez-vous de l'odeur à respirer, tandis que les blancs avantagés mangent à leur faim. Dans le second cas, dans le cas des hôpitaux, leur présence est évidente dans un pays où le VIH sévit quotidiennement. Interroger les enfants révèle cependant combien il leur est difficile d'y avoir accès. Ils peuvent être agressés et violés sur la route, contrairement aux Sud-Africains plus riches, blancs encore une fois, qui paient pour des soins de santé privés. Dernière catégorie, les cimetières. Les tombes et les croix, indiquées parfois comme des éléments clés des cartes, à cause de la mortalité routière, la plus élevée au monde, à cause du sida et de la tuberculose, pardon, qui voit le quotidien des enfants pauvres et noirs considérablement fragilisé. Pour résumer, et je ferai des commentaires en même temps, premier point, la carte est un outil de domination, utilisé politiquement pour asservir des peuples. Elle n'est pas neutre, elle n'a jamais été neutre. Mais elle est aussi un outil de révélation qui permet de déconstruire des visions du monde, des perspectives solidement ancrées, et d'autant plus qu'elles sont ici relayées par une matière, par des bâtiments, par des structures étatiques qui assignent, pardon, des places indexées sur une mémoire coloniale. C'est d'ailleurs insuffisamment traité, à mon avis, d'un point de vue théorique du moins, le rôle de la matière dans la pérennisation des structures sociales. L'autrice montre cependant très bien que la carte encode de l'histoire. On pourrait même parler avec elle d'une hantise cartographique qui peut faire l'objet d'un désenvoûtement. Et c'est précisément ce qu'elle fait, à mon avis. Si la topographie construit la topologie mentale, cette topologie peut donc être déplacée avec une reconstruction topographique. J'espère que vous suivez. Pour le dire autrement, si vous changez les cartes, il y a moyen, mais ce n'est pas le seul, de changer les esprits. Deuxième point, on a affaire ici à une méthodologie dite intersectionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que plusieurs critères sont pris en compte par l'autrice pour évoquer les stigmates de l'apartheid, des stigmates qui se cumulent. Quand on est blanc et pauvre, bien évidemment, on subit des difficultés qui peuvent être similaires à des pauvres noirs, mais quand on est en plus noir, le simple fait d'apparaître dans un espace social comme noir vous disqualifie doublement. À l'inverse, quand vous êtes noir et riche, vous ne subissez peut-être pas, tout dépend des pays, les mêmes pressions qu'un pauvre blanc. Ici, il m'a peut-être manqué une sorte d'étude comparative qui aurait permis également de montrer quel type de discrimination subissent les enfants perçus dans les espace social comme blanc quand ils sont pauvres. Il y a probablement une lecture marxiste à faire. Alors je viens de me rendre compte que vous venez d'entendre une alarme, c'est là c'est la tarte qui venait de cuire. Bon, c'est les aléas du direct ou du montage, je sais pas. Alors troisième point, et c'est ce que j'ai apprécié, et on a affaire en fait à une méthodologie externaliste. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas ici accéder à la boîte crânienne des enfants. L'autrice prétend plutôt accéder à un point de vue qui le matérialise dans un dessin et qui est contraint par l'exercice et les propriétés matérielles du dessin. Autrement dit, ce n'est qu'un point de vue possible sur le point de vue d'un enfant. Et d'ailleurs, l'autrice est toujours prudente, hein, quand elle formule des hypothèses sur les dessins des enfants. Elle croise ces indices matériels avec des sources documentaires, mais sans considérer, puisqu'elle n'a pas mené d'entretien poussé, qu'elle aurait affaire à une vérité définitive. On aurait peut-être pu ici mobiliser, d'ailleurs, les outils théoriques de la sémiotique, la science des signes pour voir, par exemple, quel est le degré de ressemblance des dessins d'enfants avec ce qu'ils observent. Est-ce que ce degré de ressemblance dit quelque chose qui pourrait être corrélé avec les facteurs observés? Je m'arrête là. On se retrouve prochainement pour un prochain podcast. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.